André Mandouze, on entend souvent dire que telle ou telle difficulté que nous éprouvons dans notre civilisation occidentale, et en particulier en ce qui concerne les questions sexuelles, sont dues à la pensée de saint Augustin. J'aimerais savoir ce que vous, vous en pensez.
Je pense que c'est en partie vrai, mais en beaucoup plus grande partie faux. Parce que, en général, on a confondu saint Augustin avec l'augustinisme. C'est un saint Augustin revu et corrigé par saint Thomas, et un saint Thomas qui est lui-même plus le thomisme déformé que saint Thomas. J'ai connu de grands augustiniens, soi-disant, qui n'interprétaient Augustin qu'à travers Thomas. Or, l'augustinisme n'est pas Augustin, et par conséquent, d'autre part, un certain nombre de gens qui n'ont jamais lu saint Augustin se sont fiés à un certain nombre d'anthologies, d'anthologies partiales. Et je sais très bien que lorsqu'on accuse Augustin, c'est toujours une quinzaine de passages qui sont toujours les mêmes qui sont cités. Par conséquent, vous me permettrez de dire que cette approche est fausse.
Bon, alors vous le dites de façon générale, j'aimerais qu'on aille un peu plus dans le détail. Par exemple, Augustin et la femme, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai que finalement l'expérience de saint Augustin l'a conduit à être anti-féministe?
Bon, alors là encore, je proteste. Car ceci est lié d'une façon plus générale à l'interprétation des confessions. La plupart des gens n'ont pas lu Augustin. S'ils ont lu quelque chose, ils ont lu les confessions. Dans les confessions, qu'ont-ils retenu? Ils ont retenu ce que j'appelle le tiercé commercial.
C'est-à-dire
la sainteté, la sexualité, et puis, disons, la grâce qui intervient là-dessus. On ne sait pas trop comment, et alors c'est merveilleux car on a deux publics, on fait de la géographie et du sexe à la fois. Or, cette vision des confessions est une vision totalement fausse. Je viens de faire l'introduction pour une édition des confessions, et cette façon de regarder l'album de famille et de détacher dans cet album de famille uniquement et essentiellement les frasques augustiniennes, de les majorer, est totalement faux. On s'aperçoit qu'en fait, ce jeune homme, je ne dis pas, était un jeune homme sage, mais ce jeune homme qui avait une sexualité forte, n'est-ce pas, a eu quelques amours étant étudiant, puis il a eu une femme, qui a été sa femme pendant 10 ans.
Une concubine.
Ne dites pas concubine. Et concubine aux yeux de la loi de l'Empire, parce qu'il n'était pas de même classe sociale. Et là encore, les hagiographes, en mettant le mot concubinat, on fait croire que c'était un homme de mère très légère. C'est totalement faux. Il lui a été, pendant tout le temps où il était avec, où elle a été avec lui, hein, elle a été sa femme et il lui a été fidèle. Là-dessus, ma position est très sévère à l'égard de Monique. S'ils se sont séparés, c'est à cause de Monique. Peut-être que s'ils ne s'étaient pas séparés, nous n'aurions pas les confessions et saint Augustin. C'est possible, mais je ne pense pas qu'il faille majorer ceci. Il parle de ces choses en connaissance de cause, alors que beaucoup d'évêques, par exemple, en parlent sans rien savoir, je pense. Mais lui, qui est évêque, sait de quoi il parle. Cependant, il ne faut pas majorer ceci qui, effectivement, a joué avant son baptême, c'est-à-dire avant l'âge de 33 ans. Et il a vécu jusqu'à 76.
Oui, mais enfin, prenons la question, si vous voulez, d'un autre point de vue actuel, n'est-ce pas? La position que nous avons, nous, chrétiens, à l'égard des femmes, n'est-ce pas, qui est une position qui peut-être actuellement s'élargit, mais qui est une position, dit-on, très négative. La position que nous avons à l'égard de la sexualité, qui est une position répressive, cette position-là, que doit-elle à saint Augustin?
Bien, je dirais qu'elle ne doit que très peu de choses. Je pense que la position de l'Église, de l'institution ecclésiale, était déjà prise très tôt. Et on a l'impression que Augustin a été un, entre autres, à une époque où précisément la fermeture n'était pas celle de maintenant. Car moi, historien de l'Église, que d'évêques je rencontre, n'est-ce pas, en lisant les pierres, un tel, fils d'évêque, fils d'évêque, fils d'évêque. Par conséquent, pendant très longtemps, on a admis et le mariage et la procréation. Simplement, on voulait que les évêques fussent fidèles à leurs femmes, n'est-ce pas, qu'il n'en ait pas plusieurs, qui ne commettent pas l'adultère. Donc voyez-vous qu'il y a eu une évolution là-dessus. Par conséquent, c'est très très tôt, Augustin tout de même, il faut penser, c'est la fin du 4e, le début du 5e siècle. Or, il y a déjà beaucoup de choses qui sont, par le moyen en particulier des conciles, par les problèmes de discipline, n'est-ce pas, qui sont déjà établis. Alors Augustin, c'est évidemment le docteur des docteurs. C'est celui qui a un style étincelant, c'est celui qui a précisément connu la femme, qui sait de quoi il parle, et à partir de ce moment-là, étant donné qu'une grande partie de ce qu'on appelle la civilisation occidentale est marquée par sa pensée et par sa vie, on attribue à cet Augustin, ce qui est hélas un poids très général, car il faut bien dire que la confusion vient de là. De quoi ? C'est que, à partir du moment où il n'y a plus eu, et je les ai étudiés de très près, j'en ai parlé justement à Radio-Canada, les persécutions, à partir du moment où il a fallu une espèce de monnaie d'échange héroïque, qui a été le monachisme, on n'était plus martyr, il fallait se rendre martyr soi-même pour le Seigneur, à partir de ce moment-là, il y a eu, et c'est là que je ferai grief à Augustin, il y a eu souvent une confusion entre les moines et les clercs. Et on a voulu faire mener une vie de moine, normalement sans femme, à des clercs, alors que jusque-là on avait très bien admis qu'ils pouvaient partager leur sort avec une épouse. Si j'accuse Augustin, c'est parce que dans son entourage, dans son épiscopium, il a fait deux types de monastères, un monastère qui était précisément de gens qui n'étaient pas mariés, qui étaient des gens qui étaient des laïcs, et d'autres qui n'étaient pas non plus mariés, mais qui étaient son clergé. Et cette expérience, qui avait à la clé en particulier un vœu de pauvreté très héroïque, n'est-ce pas, auquel il a tenu, cette expérience-là, je crois, a beaucoup marqué sur la suite. Donc vous voyez, il y a un déplacement qu'il faut opérer.
Oui. Alors, je voudrais poser une question qui nous ramène encore à l'actualité, si on peut dire, et ce sera peut-être la dernière question autour de ce sujet. Nous avons actuellement dans l'Église, en tout cas un certain nombre de théologiens le disent, nous avons un problème, n'est-ce pas, qui se centre autour de la notion chrétienne de plaisir. N'est-ce pas ? Oui. Nous avons pendant très longtemps axé notre morale sur une morale de la crucifixion, vous avez appelé tout à l'heure une morale du renoncement, etc. Et actuellement on dit, il faut quand même que les chrétiens arrivent à donner un éclairage sur le problème du plaisir. Est-ce que nous avons quelque chose à dire là-dessus ? Et là-dessus je voudrais vous demander, est-ce que saint Augustin peut nous aider à tenir un discours chrétien sur le plaisir ?
Bien entendu. Il a célébré son anniversaire juste avant en 386, hein, le 13 novembre 86, nous l'avons enregistré. Il a enregistré cette célébration au milieu de ses amis et disciples. Monique est en présent, et ça s'appelle le De Beata Vita. C'est un traité et un dialogue sur le bonheur. Et saint Augustin s'inscrit dans la série des grands philosophes de l'Antiquité, pour lequel ce qui est au centre, c'est le bonheur. Et si saint Augustin, que j'ai écrivé et que j'ai étudié dans la première partie de mes travaux du point de vue mystique, est un très grand mystique, et s'il y a des pages sublimes de saint Augustin, c'est les pages de saint Augustin au sujet du bonheur supérieur du chrétien, n'est-ce pas, découvrant son Dieu, voyant son Dieu, vivant de son Dieu. Par conséquent, il est impossible de vouloir aboutir à la sublimité de la mystique si on ne commence pas par les bases d'un certain bonheur. Augustin, encore une fois, s'inscrit dans cette voie.
Vivant son Dieu, mais renonçant à son corps.
Mais renonçant à son cœur, sans aucun doute, là-dessus, nous avons du christianisme antique une idée qui est totalement fausse. C'est ce qu'on imaginerait aujourd'hui. Un évêque montant en chair et révélant à son auditoire qu'il a eu dans la nuit un rêve qu'il a fait éjaculer.
Non, c'est impensable.
Eh bien, Augustin, saint Augustin, cet homme-là, dont on fait le portrait, que vous m'avez dit, n'hésite pas de confesser ce qu'il reste. Mm-hmm. Ça vous étonne?
Ben, quand même un peu, oui. Et je pense que je ne serai pas le seul à vous entendre.
Enfin, c'est un joli texte, hein.
Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, vous, André Mondouze, à Saint-Augustin ?
Ce qui m'a amené à m'intéresser à Saint-Augustin, c'est d'abord une réaction, je dirais, contre l'enseignement traditionnel que j'avais reçu du latin.
Je pense qu'il vaut mieux couper, parce que...
Annonce.
Bobine 505, deuxième fois.
Quand tu veux m'enseigner.
Mais André Mondouze, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Saint-Augustin ?
C'est à la fois une fidélité à mes études classiques et une protestation contre leurs limites. Quand j'étais normalien à la rue d'Ulm, j'ai dû faire mon premier essai, qui était un mémoire de recherche, et j'avais été voir mon maître Jean Baillet, qui fut directeur de l'école française de Rome, qui n'était pas du tout spécialiste de ces problèmes-là, et je lui ai dit que le chrétien que j'étais, non pas on avait assez de Cicéron, mais aurait aimé connaître autant sur un père de l'Église que sur Cicéron, et peut-être un peu plus. Et il m'a proposé Saint Augustin, le dialogue mystique dans les confessions, et précisément les soliloques. Voilà était le point de départ.
Mais on peut comprendre qu'un intellectuel, qu'un latiniste s'intéresse à un écrivain aussi important que Saint Augustin, mais pourquoi vous êtes-vous intéressé aussi à toute cette histoire des premiers siècles de l'Église? Enfin, tous ces gens qui sont quand même du menu fretin, d'une certaine façon, pour un professeur de Sorbonne.
Je voudrais vous dire, ce menu fretin est très important, c'est celui qui fait maintenant l'objet de du livre que je viens de sortir avec toute une équipe qui s'appelle « Prosopographie de l'Afrique chrétienne pour le Bas-Empire », où j'ai 2500 personnages que Henri Marot appelait les fantassins d'histoire, des petits bons hommes parfois, ou des petites bonnes femmes, parfois des gens d'importance qui nous me permettent de mieux voir maintenant la place d'Augustin, parce que trop souvent on reconstruit d'après un génie et on voit mal les choses. Je complète ce que j'avais à vous dire, c'est que cet Augustin, je l'ai transporté avec moi toute ma vie, et y compris dans son pays. C'est-à-dire que ma nomination en Algérie en 1946, n'ayant fait que je devenais maître de conférence à la faculté des lettres d'Alger, je me suis trouvé dans le pays de Saint-Augustin. Et qu'à partir de ce moment-là, ce qui était déjà pour moi très important, m'est devenu connaturel. Augustin, pour moi, je l'ai cherché sur toutes les routes, je l'ai cherché sur toutes les ruines, n'est-ce pas ? Et les ruines ne m'ont pas suffi. Précisément, j'ai confronté les ruines monumentales à ses œuvres, et ses œuvres, petit à petit, j'ai compris qu'elles ne suffisaient pas elles-mêmes, en particulier cet homme qui était évêque, cet homme qui participait à des conciles, cet homme qui n'inspirait pas seulement la théologie de l'Église de son époque, mais qui était un pasteur, n'est-ce pas ? Cet homme, j'ai voulu connaître ceux à qui il s'adressait dans ses sermons, ceux qui le lisaient, ceux pour qui il voulait qu'à tel endroit il y ait un évêque, qui parla à Punic, etc.
Puisque m'avez entraîné jusqu'en Algérie, que je ne connais pas, j'ai presque envie de vous poser une question. L'autre jour, je disais à des gens, je vais interviewer André Mandouze, on me dit, André Mandouze, l'Algérie, il était contre l'Algérie française, etc. Dans ce combat que vous avez mené, ce combat politique qui était pour vous quand même très dur, qui vous a même, je pense, conduit
à la prison,
est-ce que Saint-Augustin vous a été de quelque secours?
Bien entendu. Je veux dire, ça m'a conduit à la prison et aussi au fait que les deux gouvernements, au moment, ça va faire 20 ans, juste, ont négocié, ils ont trouvé que le meilleur directeur de l'enseignement supérieur de l'Algérie indépendante pourrait être André Mandouze. Il y a des retournements de l'histoire. Mm-hmm. Et je vais, dans quelques jours, aller parler de leur Saint-Augustin aux Algériens qui m'ont demandé de parler de ce que je voulais. Et donc, je vais les aider à retrouver une partie de leur histoire.
Et c'est important pour eux?
Très important.
En quoi?
Il y a 2 ans, j'ai été convoqué, j'ai eu une mission de la part du ministre de la Culture, qui succédait à un autre qui avait discuté de cela avec moi, pour justement leur remettre un rapport sur ce problème-là. Et ce problème, je l'ai illustré dans un autre pays du Maghreb, en Tunisie, où le président Bourguiba m'a demandé, il y a 3, 4 ou 5 ans, de présenter devant le Conseil des ministres, devant tous les ambassadeurs et tous les professeurs d'université, ce maghrébin qui était Augustin. Par conséquent, et je rappelle qu'en Tunisie, il y a 4 figures protectrices de l'État tunisien, n'est-ce pas ? Il y a effectivement Hannibal, il y a Jugurtha, il y a Ibn Khaldoun et il y a Saint-Augustin.
Donc il y a chez ces peuples d'Afrique du Nord, chez ces peuples arabes, un besoin de retrouver leurs origines, y compris leurs origines chrétiennes.
Bien entendu.
Qu'ils n'évacuent pas.
Leur histoire complète. Et la difficulté, je réponds à votre question, je ne l'oublie pas, de tout à l'heure, qui était justement celle de mon engagement, c'est que précisément, j'ai toujours protesté contre la façon dont la latinité africaine de l'Église africaine, avait été utilisée politiquement par les modernes. Quand en 1830, On a fait le centenaire en Algérie de l'Algérie française. On a trouvé le moyen de faire le centenaire aussi de la mort de Saint-Augustin, qui était mort en 430. Et il y a là un livre ahurissant où précisément il y a de quoi faire en sorte que les Algériens ne veuillent pas entendre parler d'Augustin. On est obligé justement de décaper pour leur révéler ce qu'était cet homme. Et je l'ai encore tenté il y a un mois en Tunisie, où j'ai fait une conférence là-dessus, et un certain nombre de Tunisiens m'ont dit, mais vous nous révélez Saint-Augustin. Pour eux, c'était le roi, c'était celui, je dirais presque, lié à la colonisation française. Voilà le problème.
Oui. Alors revenons à notre histoire de l'Église, si vous voulez, n'est-ce pas ? Mais et qu'est-ce que c'est que justement toute cette Église des premiers siècles ? En quoi elle vous fascine ? En quoi elle vous intéresse ?
Elle m'intéresse, encore une fois, faisons attention, des premiers siècles, je veux bien, mais je m'intéresse au tout premier siècle de l'Église, puisque je vous ai dit, j'ai raisonné sur la naissance de l'Église, qui est inséparable des persécutions, mais il faut savoir, le 4e et le 5e siècle, c'est déjà des siècles un petit peu tardifs, pour nous c'est très ancien, mais en fait, c'est déjà, l'Église est déjà constituée. Qu'est-ce qui m'a fasciné ? Bien, la question que vous me posez, j'ai commencé à y répondre tout à l'heure, quand je vous ai dit que le jeune étudiant que j'étais voulait... non seulement nourrir son intelligence, mais nourrir sa foi. Puisque il foi en Jésus-Christ, c'était une grâce dont il ne méritait pas, n'est-ce pas ? Il s'agissait que je sache exactement le plus possible comment ça s'était passé. Et par conséquent, cet intérêt pour l'Église ancienne est pour moi une chose essentielle. Je ne crois pas qu'on puisse voir le futur si on ne connaît pas et le présent et le passé. Et par conséquent, en ce qui concerne l'Église, je pense que c'est d'autant plus important qu'à l'époque de Saint-Augustin, je vous l'ai dit tout à l'heure, pratiquement du point de vue de la morale chrétienne, et pour moi, le christianisme est bien au-delà d'une morale, ce n'est pas d'abord une morale, hein, nous y reviendrons, j'espère, hein, eh bien, cette morale, de même que l'organisation ecclésiastique, était déjà fixée. Par conséquent, tout mon travail a été d'essayer de remonter en deçà mon secteur et des... Pourquoi ces pères de l'Église sont des pères de l'Église ? Parce qu'ils sont d'abord des fils de l'Évangile. Et que un père de l'Église, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme qui prêche la parole. Hein ? Tous leurs ouvrages, c'est quoi ? C'est le commentaire de la Bible. Hein ? Et un homme comme Saint-Augustin avait coutume de dire qu'il préférait lire le texte que le commenter. À l'occasion, il reprenait des mains du lecteur le texte et il le lisait. Et pour lui, c'était essentiel.
Mais justement, ce que vous venez de dire là m'amène à vous poser une autre question, et tout ce que vous venez de dire. Est-ce que cette Église des premiers siècles, est-ce qu'elle était vraiment fidèle à l'Évangile ? Parce qu'actuellement, on dit toujours, n'est-ce pas, nous avons trahi l'Évangile, nous nous sommes éloignés, il faut retourner aux sources, etc. Est-ce que cette Église-là était vraiment fidèle à l'Évangile ? Et est-ce que c'est à elle qu'il faut retourner ?
Vous savez, c'est très difficile. Votre réponse est impossible. Mais enfin, je vais essayer de répondre. Enfin, ce que je crois, ce qui est ma conviction. Est-ce que l'Église ancienne a été fidèle exactement à l'Évangile ? Mon ami Henri Marot, que j'ai déjà cité, qui était très spirituel, vous répondrait, l'Église a été fondée à la Pentecôte, c'est merveilleux. 3 jours après, Pierre et Paul se querellaient. C'était la vie de l'Église qui commence. Et par conséquent, il y avait des interprétations, et nous savons très bien que l'Évangile, c'est pas l'Évangile, c'est les Évangiles. C'est 4 reporters, n'est-ce pas, si j'ose dire, qui, et le Christ, a laissé la liberté aux hommes, qui ont ramassé, et parfois contradictoirement, des paroles de Jésus-Christ. Bon, premier point. Deuxièmement, nous avons ce que nous avons de plus direct sur ces vieux chrétiens, ces anciens chrétiens, qui auraient été si admirables. C'est le fameux passage qu'on cite toujours des Actes, n'est-ce pas, où ils vivaient ensemble, en communauté, où ils partageaient tout, etc. Bon. Alors là, c'est évidemment un texte qui nous représente l'idéal, et sans aucun doute, cet idéal est beaucoup plus facile à vivre dans les petites communautés que dans les grandes. On nous parle d'une, je dirais, de la cellule primitive et des cellules primitives, et là il est bien évident que si je suis personnellement pour des églises comme il y a en Amérique du Sud, n'est-ce pas, des églises qui ont beaucoup de cellules de base, c'est parce que je crois que ces cellules de base, n'est-ce pas, ces églises de base, nous permettent justement et cette convivialité, cette communion et ce partage. Je crois qu'effectivement là, il y a un évangélisme qui peut être moderne et qui a été ancien. Cela étant, Il est bien évident que tout ce que je sais comme historien de l'Église, c'est que effectivement les conciles, c'est que les sermons, c'est que toutes les suppliques des évêques, ou au contraire, disons presque les remontrances, et parfois des remontrances très sévères, prouvent qu'il y avait par rapport à cet idéal beaucoup de manquements, que l'homme est l'homme. Et par conséquent, l'évangile sera toujours un idéal. Et il est bien évident que c'est là où nous retrouvons notre problème du monachisme, où précisément, on veut que l'homme, le moine, qu'est-ce qu'il cherche? C'est la perfection de vie. C'est la vie parfaite.
Quelle est justement, selon vous, André Mandouze, cette perfection de vie chrétienne?
Je vous ferai une réponse augustinienne, enfin, j'espère. C'est celle qui consiste à se laisser porter par la grâce. Et la grâce passe par les hommes aussi. Je l'écris bien souvent.
Par les hommes et par les médiations terrestres.
Et par les médiations terrestres. Par conséquent, il s'agit d'être à l'écoute, non orgueilleux, à l'écoute, et de reprendre ce texte très difficile d'Augustin, qui avait fait que les intégristes, une fois, avaient failli me démolir physiquement. À la fin d'une émission où j'indiquais les dangers que représentait Mgr Lefebvre, c'était sa fameuse messe à Lille, et je faisais le reportage, n'est-ce pas, et j'avais cité le fameux mot d'Augustin, n'est-ce pas, aime et fais ce que voudras. Voilà un mot qui n'a pas beaucoup de rapport avec le début de notre entretien. Mais quand on voit le contexte de ce texte, on voit très bien que ça suppose une docilité, une écoute à la grâce qui est quasi impossible, je le sais bien. Mais c'est ça qui me paraît être l'essentiel. Vous me parlez de l'Évangile. Hein? Pour moi, l'essentiel, c'est bien l'Évangile. L'essentiel de l'Évangile, c'est les béatitudes. Je donnerai pratiquement tous les traités théologiques que vous voudrez pour les béatitudes. Et la béatitude, je vous ramène à votre question. Béatitude, ça veut dire le bonheur.
Ça veut dire le bonheur.
Bienheureux ceux qui.
Oui, mais dans cet idéal de perfection, dans cet idéal de bonheur, et nous revenons à saint Augustin, quelle place tient le péché?
Oh, il a sa place, il a une place même très importante. Et je ne vais pas essayer de biaiser. N'attendez pas de moi un portrait amélioré de saint Augustin. Je vais même vous faire une confidence.
Ah, mais je veux qu'on aille au-delà de saint Augustin, je veux qu'on trouve André Mandouze.
Non, mais je vais vous faire une confidence. André Mandouze vit avec saint Augustin depuis bientôt près d'un demi-siècle. Et je dirais, humoristiquement, là encore une fois, que notre association est parfois tumultueuse. Des moments où je ne suis pas du tout d'accord. Je le dis bien à mon séminaire hebdomadaire, mes élèves et disciples savent très bien que là, à l'occasion, je dis non. Et si Dieu me prête vie, je crois que je ferai peut-être un petit volume sur ce que je n'admets pas dans Augustin, n'est-ce pas ? Mais surtout, ce que je n'admets pas dans la mesure où lui-même a été déformé. Vous me permettez un exemple ? On vous dira, saint Augustin, c'est un homme qui, dans le débat avec le schisme qui était en Afrique à son époque, c'est-à-dire le donatisme, c'est un homme qui a fait appel au roi séculier. C'est pas vrai. Ceux qui ont fait appel au roi séculier, c'est ceux qui participaient de la même mentalité que lui. C'était des chrétiens.
Le roi séculier, c'est-à-dire une intervention du pouvoir public de l'État.
Du pouvoir qui, effectivement,
réprimer la...
une hérésie, c'est inadmissible. Là, j'ai fait une autre émission en Canada, j'en avais parlé, je n'y reviens pas. Qu'est-ce qu'a fait Augustin? Cet homme a commenté le fameux texte de l'Évangile, n'est-ce pas, qui dit... Le passage, n'est-ce pas, le festin, puisque le festin est boudé par ce pour lequel il était fait, eh bien, qu'y viennent tous ceux qu'on va ramasser dans tous les chemins. Il y a le fameux texte, compelle entrare.
Hein, forcez-les
le maître dit, forcez-les entrer. Eh bien, ce commentaire du compelle entrare est un commentaire. Ce commentaire, avec à l'appui le bras séculier, c'est un commentaire du Moyen-Âge. Alors on peut dire c'est saint Augustin. De fait, saint Augustin, quand il y a eu la grande conférence de Carthage en 411, où il y a eu arbitrage du pouvoir entre les deux masses des évêques, plus de 250 de chaque côté, n'est-ce pas ? Quand il y a eu cette conférence de Carthage en 411, je dirais saint Augustin a triomphé, l'Église catholique a triomphé. Et effectivement, la conclusion était que les donatistes devaient se convertir. Mais cela étant, bien des années après, il rencontre un vieil évêque avec qui il avait conversé 7 ou 8 ans avant, il ne s'est pas converti et il l'appelle à nouveau à dialoguer. Par conséquent, voyez-vous, il ne faut pas tirer ni des textes, ni de ce qu'on voudrait, n'est-ce pas, des choses qui n'y sont pas. Mm-hmm. Voyez-vous, je ne veux pas arranger sans aucun doute. Augustin était un homme passionné. Et j'aime les hommes passionnés.
Un homme pas facile à vivre aussi.
Un homme pas facile à vivre. Sans aucun doute, si j'avais été un de ses paroissiens, j'aurais fait comme je fais à peu près tous les dimanches à la sortie de l'église.
J'aurais pesté.
Je lui dis, ben, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Et je dois dire que pour les messes suivantes, à l'occasion...
On peut donc être saint et ne pas être facile à vivre.
Mais bien entendu.
Vous me consolez.
Mais c'est déjà impossible, les saints. Mmh. C'est déjà impossible. Et surtout, on est le saint de son tempérament. Et pour avoir un tempérament, il faut avoir du caractère. Et avoir du caractère, vous savez bien qu'on l'a mauvais. C'est bien évident. Mais ça, vous connaissez bien le dossier... Saint-Augustin, Saint-Jérôme,
oui,
ces deux hommes, n'est-ce pas, par lettres, se sont traités de tout. Surtout que la poste n'était pas la nôtre actuellement.
Et, qu'on et
que
les
le
lettres.
Pauvre Saint-Jérôme, n'est-ce pas, a appris 5 ans après ce que Augustin disait de lui et que tout le monde savait dans le bassin méditerranéen. Mmh. Ça n'a pas arrangé les choses.
Oui.
Mais enfin, il faut les lire. Non, non, les saints ne sont pas... Surtout, cet idéal de sainteté qui serait la platitude, qui serait une espèce de Saint-Sulpicerie, de non-violence plate. Quelle horreur! Ça n'a rien à faire avec l'Évangile. Vous croyez que Jésus-Christ, il n'a pas renversé hein, certaines tables, il n'a pas pris un fouet, il n'a pas traité les gens de sépulcre blanchi.
Oui, mais
c'est mon Jésus-Christ, c'est celui que j'aime.
Oui, mais c'était pour le bien, c'était pour le bien.
Et alors?
Oui. Alors que nos colères ne sont pas toujours pour le bien, elles viennent justement d'une impulsion,
mais
d'une émotion.
Bien sûr, le péché existe, je sais bien.
Mais justement, le péché existe. Oui, alors le péché, justement, dans cet idéal de perfection et de bonheur.
Vous savez, le péché, je tiens ce que je vous ai dit, le péché aime et fait ce que voudra. Je crois que le péché, c'est dans telle circonstance ne pas avoir aimé. Et avoir préféré, à l'objet naturel d'un amour, avoir préféré autre chose qu'il ne vaut pas. Alors effectivement, c'est une réponse un peu générale, n'est-ce pas hein? Mais je pense que c'est ça. Le péché, c'est une négativité. Reprenons encore comme référence saint Augustin. On a dit qu'il était pessimiste. Or, quel est, n'est-ce pas, le béaba de, je dirais, de son ontologie? C'est de dire, n'est-ce pas, quae cum quae sunt, bona sunt. Tout ce qui est, c'est bon. Parce que ça vient de la création. Et chaque fois, il a protesté, quand on a voulu faire à son époque, du mal, une essence. Et c'est son grand combat avec le manichéisme. Le fameux Augustin qui n'était pas converti, c'était celui qui pendant 10 ans a pratiqué le manichéisme, c'est-à-dire celui pour lequel le mal était une entité, même une divinité. Alors vous comprenez que précisément toute sa vie, saint Augustin a eu horreur de cette valorisation. Alors je sais très bien, effectivement, il s'est heurté à autre chose qui était le problème libre arbitre grâce. Et ma réponse était dans le droit fil d'Augustin. À partir du moment où la volonté d'un homme s'élève en n'aimant pas assez ce qu'il devrait aimer, s'élève contre la grâce, à ce moment-là, par certains côtés, effectivement, il retrouve la situation d'avant. Et alors, ça peut paraître paradoxal, à partir de ce moment-là, Augustin combat avec une violence extraordinaire ce péché, le combattant le valorise comme toujours, et je dois dire que si j'ai un regret dans ma vie, c'est que saint Augustin ne soit pas mort 10 ans trop plus tôt.
André Mandouze, au moment où saint Augustin achève sa vie, il y a un basculement, si on peut dire, d'une civilisation, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui s'effondre. Et on peut avoir aussi actuellement l'impression qu'il y a un autre basculement, qu'il y a un autre effondrement de la civilisation. Est-ce qu'il y a quand même là un enseignement dont on peut tirer quelque chose pour nous, n'est-ce pas, dans cette œuvre de Saint-Augustin, cette réflexion de Saint-Augustin sur cet effondrement d'une civilisation?
Une fois de plus, je vais contester. Parce que cette notion de bascule, d'effondrement est une notion que les historiens modernes, avec raison, révisent profondément. Nous préférons beaucoup plus parler de latinité tardive, par exemple, que de bas empire maintenant. Pourquoi ? Parce que nous avons beaucoup plus conscience qu'autrefois que le haut Moyen-Âge est en droite ligne sorti de ce que vous appeliez la fin du monde antique et de ce que Henri Marou lui-même à ses débuts appelait le un déclin. Et à la fin de sa vie, il avait aussi révisé son dernier livre. C'est précisément un livre où il pose la question déclin ou antiquité tardive. Par conséquent, là, je crois que notre critique historique actuelle remet les choses au point. Et par conséquent, je crois que cette espèce de drame qu'on ferait, il y a Augustin au bord de l'abîme, puis plus rien.
Les barbares sont aux portes d'Hippone.
Mais les barbares sont quoi ? Ces barbares sont chrétiens. Ils sont ariens. Mais ils ont déjà été christianisés. Et il s'en est fallu de très peu que tout l'Occident ne fût arien. Je ne reviendrai pas sur cette histoire. Ça va être pour l'Afrique, pendant un siècle, une épreuve très grande, l'opposition entre arianisme et catholicisme. Mais attention, il y a barbares et barbares. Là encore, les barbares, on agite cela, c'est affreux, ça cache tout, ils ferment toutes les églises, ils exilent. Bien sûr qu'ils feront cela. Mais, vous savez, Augustin avait ce grand mot, etiam peccata, nous revenons au péché. Même les péchés servent à la rédemption. Et c'est aussi bien vrai pour l'homme individuel que pour la collectivité. Et par conséquent, s'il n'y avait pas eu les barbares, il n'y aurait pas le christianisme actuel. Je dirais par certains côtés, heureusement qu'il y a eu les barbares, alors il y a eu des conversions, il y a eu Clovis, etc., bien sûr, mais bien entendu, ça a été en 430, au moment où il est mort, la prise d'Hippone et la suite, ça a été probablement pour la chrétienté d'Afrique une épreuve dont elle ne s'est pas remise, il faut bien le dire, n'est-ce pas ? Mais c'est en même temps pour le monde. C'est en même temps pour le monde une occasion par les barbares de répandre la parole. Les barbares ne m'ont jamais fait peur.
L'Église doit passer aux barbares.
Bien entendu. Bien entendu. Et si vous voulez, il y a eu. Déjà, c'était annoncé dans la cité de Dieu d'Augustin. Ça a été repris par son disciple Orose, et Salvien, alors, a tenu la théorie que les barbares, c'était précisément là que l'Église devait aller. Mais,
alors, posons la question en termes très contemporains. Et je vais la poser dans les termes même qu'un de vos collègues historiens l'a posé, n'est-ce pas ? André Mandouze, l'Église va-t-elle mourir ?
Ah oui, vous faites allusion au livre de Delumeau. Ce livre de Delumeau que j'ai aidé à lancer dans Le Monde par un article, n'est-ce pas ? Et Jean Delumeau, qui est un de mes amis, en a été reconnaissant. L'Église va-t-elle mourir ? Là encore une fois, il faut reprendre les termes. Je crois qu'une certaine église doit mourir. Un certain type d'institution qui effectivement a perdu ce sens du barbare, a perdu ce sens de non pas de l'expansion et du triomphalisme, mais du regard vers l'autre, qui n'en est plus qu'à régler ses comptes à l'intérieur dans tous les sens du terme, et qui, effectivement, n'a plus d'imagination. Cette Église-là, elle meurt. Elle est en train de mourir. Il n'y a qu'à voir, je dirais presque, ses fonctionnaires sont en train de disparaître, ils sont d'âge, qui font qu'ils ne seront pas remplacés. Et par conséquent, effectivement, je ne sais pas faire de la prophétie de dire qu'elle va mourir. Mais ceci ne m'inquiète absolument pas. Pas seulement parce que l'Église a les paroles de la vie éternelle et les promesses de la vie éternelle, mais parce que, précisément, le Christ nous l'a bien dit. Et il y a eu des débats à ce sujet. En général, on l'appliquait à d'autres choses, mais pas à l'Église. Si le grain demeure. Je viens d'écrire un article, quelques articles, et je prépare un livre sur ces problèmes-là, justement, qui sera un peu la suite du texte de Delumeau d'une autre perspective, n'est-ce pas ? Et pas seulement à partir du XVIe siècle. Je tiendrai compte de mes connaissances en patristique et je me situerai résolument, totalement, dans le XXe siècle et dans l'avenir. N'aie pas peur du tout de cela, n'est-ce pas ? L'Église, il est normal que bon nombre de ses parties meurent. Proclamer la rédemption, admirer, vivre du fait qu'un homme que le Christ est mort et avoir peur que cette Église dont il est la tête meure, mais ça serait un sacrilège.
L'église, une certaine église doit mourir comme le Christ est mort, si je vous comprends bien.
Alors le problème n'est pas de se réjouir, ah très bien, etc. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Et parfois, je me lamente de voir à quel point même des éléments qui ne devraient pas mourir, on s'acharne à les détruire dans l'église mère.
Comme par exemple.
Eh bien, disons que un certain nombre de... Le culte lui-même, puisqu'au fond, très souvent, on qualifie les chrétiens, c'est ceux qui vont à la messe, c'est ceux qui pratiquent, etc. Tout ce débat, où on sent très bien actuellement, après une explosion qui a suivi le concile, où en particulier dans les pays non occidentaux, n'est-ce pas, il y a eu une espèce de libération, où on avait l'impression qu'on ne recommencerait pas les sottises qu'on avait faites au sujet des rites chinois un siècle passé. On sent très bien maintenant qu'il y a une espèce de recul. C'est un homme extraordinaire d'aller au centre de l'Afrique et d'entendre, n'est-ce pas, des messes en latin par un grand nombre de noirs, n'est-ce pas, et chanter, n'est-ce pas, « Rends-moi blanc comme l'hysope », n'est-ce pas, enfin, c'est grotesque. Alors, on a superposé quelque chose, au contraire, un fond, une réaction du peuple, où précisément, et Dieu merci, c'est pratiqué aussi, une certaine conception du chant, de la voix, devrait être valorisée. Je prends cet exemple parce que j'ai un peu peur. Mais il y a beaucoup d'initiatives où je sens... Vous voulez que je donne un deuxième exemple ? Parce que votre question est très importante. Je citerai ce que j'ai dit moi-même à Saint-Louis des Français, en présence d'un certain nombre de gens de la Curie, n'est-ce pas, dans une conférence où, avec René Raymond, nous essayons de réfléchir sur l'Église et l'histoire. C'est une des choses dont j'ai déjà dit un mot au pape Jean-Paul, et je voudrais reprendre ce débat sur la nécessité dans l'Église de donner à l'histoire sa place. Par un membre d'ailleurs important de la Bibliothèque Vaticane, la question m'était posée de l'œcuménisme. Dieu sait si je suis ouvert à cet œcuménisme et si je suis fier d'être docteur honoris causa de la faculté de théologie protestante de Paris, qui m'a fait docteur honoris causa, n'est-ce pas, pour son centenaire. Je suis senti chrétien à part entière avec mes amis. Je posais la question. Je ne doute pas des volontés œcuméniques du pape Jean-Paul II, et en particulier des liens qu'il évoque souvent avec l'Église orthodoxe. Si nous voulons aller loin, il faut effectivement qu'il puisse y avoir une rencontre profonde et du laïcat et du clergé. Or, nous savons très bien que le clergé orthodoxe ne parle pas des moines, ne parle pas des évêques, est marié. Par conséquent, il est bien certain que, je dirais, en sociologie religieuse, il sera bien normal que sur ce plan-là aussi, on revienne en deçà de ce que j'ai appelé les initiatives augustiniennes. Qu'on sépare moine et clerc. Voilà un deuxième exemple. Et sur ce plan, je sens bien qu'actuellement, il y a des blocages que je regrette. Je me souviens aussi d'un débat que j'ai eu à Europe numéro 1 avec le cardinal Jean Danielou. Je connaissais très bien. Il était un patristicien de la Grèce, comme j'étais un patristicien de la latinité. Et c'était au moment où un prêtre très connu avait quitté le sacerdoce, qui était apparemment bon sens. Et j'aurais aimé que Jean Danielou, que je connaissais très bien, fasse part à tous les auditeurs d'Europe numéro 1 de son expérience de patristicien, et en particulier que, comme je disais tout à l'heure, ces évêques avaient été mariés à une certaine époque, les prêtres, etc. Eh bien, il a biaisé, et je n'ai pas eu satisfaction sur ce point, alors que effectivement, il faut absolument que les connaisseurs de l'histoire de l'Église témoignent que c'est un problème de véracité. Hélas, il y a très peu d'évêques qui soient historiens de l'Église, et encore moins qui soient théologiens.
Je vous ai posé la question, l'Église va-t-elle mourir ? J'aimerais presque vous la poser autrement, et presque plus...
Allez-y.
Le christianisme va-t-il mourir ?
Je vous remercie de poser la question, car de fait, le livre que je prépare ne comprendra pas dans son titre le mot Église, mais il y aura chrétien ou christianisme. Je ne crois pas du tout que le christianisme va-t-il mourir, mais qu'est-ce que le christianisme? À partir de ce moment-là, on est libéré, je dirais, comme historien, de ce rapport immédiat qui concerne un certain nombre des gens de l'appareil, et on réfléchit sur l'ensemble de l'Ecclésia, c'est-à-dire de l'assemblée des chrétiens, de l'assemblée des hommes.
D'hommes qui ont choisi de vivre en fonction de l'Évangile.
Voilà.
En fonction de Jésus-Christ.
Oui. Eh bien, moi, je crois que c'est ce qui se prépare. Je me souviens très bien de ce qu'avait écrit ce prêtre, qui est un dominicain, qui s'appelle le père de Beaurecueil, que vous connaissez peut-être, et qui vit en Afghanistan, qui dit qu'il a commencé par l'enseignement supérieur, puis il a continué par l'enseignement secondaire, puis par l'enseignement primaire, et maintenant il fait l'alphabétisation. Et pour lui, c'était une promotion, c'est vrai. Il s'était inséré de plus en plus dans les couches populaires d'Afghanistan. Et il a fait un très beau livre, dont le nom m'échappe, en ce moment assez bref, où effectivement il parlait de ses disciples de Jésus, de ceux qui étaient pleins de Jésus et qui effectivement ont témoigné comme cela. Et il n'essayait pas de les faire entrer en quelque sorte dans un cadre qui serait ce cadre-là, un cadre, je dirais, ecclésiastique, mais il faisait confiance au Seigneur, à des témoignages divers, à des incarnations diverses comme effectivement un spécialiste des synoptiques, n'est-ce pas, quand il compare à Saint Jean, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses très diverses dans l'Évangile.
Mais comment être chrétien aujourd'hui?
Alors là, n'essayez pas de me faire jouer le rôle d'un membre de la hiérarchie.
Non, pas du tout.
Je
viendrai tout à l'heure sur des questions plus précises. Allez-y.
Je pense que le comment être chrétien, oui, ça peut se poser à deux degrés. Il y a des gens qui disent comment peut-on être chrétien aujourd'hui, comme comment peut-on être persan.
Comment répondre à l'évangile de Jésus-Christ? Comment répondre à cette parole? Vous, comme père de famille, comme intellectuel, comme homme engagé dans la politique, c'est ça les questions que je vous pose.
Merci.
Pas comme curé.
D'avoir posé la dernière question, parce que j'ai toujours été, si j'ai été plus ou moins bien un chrétien, j'ai été plus ou moins bien à l'université, je suis plus ou moins bien un homme politique, est engagé dans le débat de son pays.
Et dans des débats très, très chauds, très brûlants.
Oui, qui est en train de préparer un article sur le Liban, enfin, puisque le christianisme aussi est impliqué là-dedans de façon grave. Par conséquent, merci de m'avoir posé ces problèmes, n'est-ce pas? Je ne les ai jamais cachés, d'ailleurs tout le monde sait très bien que, et dans mon séminaire même, n'est-ce pas, je tiens mes étudiants au courant de mes différents engagements.
Et que André Mondouze a été pendant longtemps un journaliste engagé, rédacteur de témoignages chrétiens, et prenant des positions politiques, non pas au nom de l'Évangile, mais en tant que chrétien.
En tant que chrétien, oui, parce que dire que je, au nom de l'Évangile, ben, je crois que vous venez de poser la chose convenablement. Un chrétien actuel, je crois, ne doit pas vouloir être prosélyte et il ne doit pas vouloir être édifiant. Il doit être. Je veux dire par là que, avec les moyens qu'il a, avec tous ses péchés, avec toutes ses fautes, avec tous ses... les références, je citais tout à l'heure, les béatitudes, le aime et fait ce que veut, doit être quelque chose de constant dans son esprit. Il y manque aussi constamment. Mais il ne fait pas la leçon. J'ai toujours dit que le chrétien, c'est un homme qui constamment, la référence serait à Cambronne, est un éternel embêteur et un éternel embêté. Après tout, il a d'autant moins à être édifiant, à faire la leçon, qu'il y a des moments, je vous parle profondément, il y a des moments où j'aimerais bien ne pas être chrétien. Ça serait beaucoup plus simple. Quand je vois des gens qui parlent du christianisme en termes, je dirais, de possession, avoir la foi, quelle stupidité. Bernanos disait, on ne perd pas la foi comme on perd un porte-monnaie, n'est-ce pas? Mais c'est dans la mesure où on est chrétien, dans cette même mesure, c'est le Seigneur qui vous tient par un cheveu ou par le fond de la culotte. C'est pas vous qui le tenez. Hein? Donc, voyez-vous, je ne me dérobe pas à ce que vous dites, mais c'est quelque chose à la fois de très simple et très compliqué. Tous les jours, je crois être un chrétien différent de la veille, dans la mesure où précisément tel événement se passe, auquel je n'ai pas réfléchi, et y étant confronté, je n'ai pas immédiatement à tourner les pages des théologiens ni de saint Augustin, pas du tout. J'ai essayé, en fonction de tout ce qui est présent en moi, de ce christianisme-là vécu, essayer d'y répondre, et sans avoir jamais dans l'idée d'aller demander la permission à qui que ce soit.
Ni à Monseigneur, ni à votre confesseur.
Certainement.
Mais alors, je sais, vous avez écrit vous-même, André Mandouze, qu'on ne tire pas une politique de l'Écriture
sainte.
Oui. Alors, en politique, par exemple, dans cet engagement temporel, civil,
oui,
dans les combats que vous avez menés, en quoi l'Évangile a-t-il pu être pour vous une source d'inspiration ?
C'est comme ça. Je dirais que le fameux poème que tout le monde connaît d'Aragon, et qui est dédié à un de mes amis de la Résistance en partie, un chrétien, Gilbert Druc, a été fusillé.
Ceux qui croyaient au ciel et ceux
qui
ne croyaient pas.
Bon. C'est une expérience que j'ai vécue à 25 ans, enfin au moment où j'étais le rédacteur en chef du Témoignage chrétien clandestin, et à 25 ans, j'avais parcouru une histoire au fond qui n'a pas tellement avancé. J'ai vécu, j'ai vieilli, j'ai maintenant 66 ans, mais je dois dire qu'à 25 ans j'avais réalisé un certain nombre de choses que des évêques que je rencontrais ou des professeurs dont j'étais assistant n'avaient pas idée, parce qu'on avait été immergé dans, d'une part, cette façon d'affronter les problèmes, vous savez, Pascal, Mauriac, n'est-ce pas, les événements, n'est-ce pas, c'est la grâce qui vous les envoie, hein. C'est comme ça. Bon, il faut y faire face. Si vous vous cachez, ça ne va pas. Et deuxièmement, j'ai vécu ces événements avec des gens dont certains croyaient en Dieu, d'autres n'y croyaient pas. Et j'ai vu que, effectivement, devant un danger commun, devant, comme par exemple le racisme, le nazisme, effectivement, avec des idéologies différentes, nous réagissions de façon parallèle. Remarquez, si on va y chercher loin, et en ce moment, j'écris aussi sur les problèmes de la laïcité, puisque c'est un des problèmes qui va se poser à la France. Je crois qu'effectivement, un certain nombre des laïcs français ont été formés par le christianisme. Et que ce n'est pas tellement étonnant que nous nous retrouvions tout à fait d'accord, n'est-ce pas, dans une perspective de séparation de l'Église et de l'État. N'est-ce pas ? Moi, c'est le grand progrès. Il y a des pays où on peut séparer l'Église et l'État et les pays qui ne l'ont pas fait. Et quelle liberté ! Et alors là on revient à Constantin. Je sais que Constantin est par certains côtés une catastrophe, je le sais bien, mais il n'y pouvait rien puisque le monde antique mélangeait les problèmes religieux et les problèmes de l'Église. Vous savez, le christianisme libéré commence en 1904-1905. Je serais prêt à mettre le petit père Combes sur les hôtels.
Oui, mais revenons à cette idée, à ce problème, n'est-ce pas, de l'engagement politique du chrétien, oui. car il est très sérieux actuellement. Pensons par exemple à tout ce qui se passe en Amérique latine,
oui,
n'est-ce pas. Je sais que ça vous préoccupe,
oui,
n'est-ce pas. Alors, quel engagement est possible ?
Moi, je crois que est possible l'engagement de tout l'homme, y compris, n'est-ce pas, je dirais, y compris ce qui peut être dans une morale statique considéré comme le plus douteux. Je reviens. Permettez d'illustrer par mon histoire.
Mais c'est ce que nous vous demandons.
Le témoignage chrétien. J'ai fait le courrier français, j'ai écrit un certain nombre de cahiers, comme le cahier déportation. Bon, je ne suis pas seulement un intellectuel qui a les mains blanches. J'ai précisément, par mes actes, agi sur des hommes qui sont morts, et je le sais. J'ai failli mourir un certain nombre de fois, les Allemands étant à mes trousses, ou l'OS, voulant supprimer les miens et moi-même. Bon, en conséquence, si vous voulez, j'ai... Et dans le dernier cas, j'étais considéré comme, précisément, un allié des terroristes, de gens qui tuaient.
Et un traître.
Et un traître, bien entendu, puisque j'ai été en prison pour haute trahison, bien entendu. Et très récemment, j'étais en Martinique pour le mémorial Franz Fanon, il y a 2 ou 3 mois, et à la télé, pendant 1 heure, j'étais agacé par un certain nombre de questions qui étaient préfabriquées, et j'ai fini par dire, vous avez devant vous un traître. Et vous voulez, traître à une certaine France? Oui, parce que c'est une autre France. C'est une France, précisément, dont le christianisme est une composante essentielle, c'est à cette France-là que je suis fidèle. Par conséquent, il faut savoir qu'effectivement, dans ce jeu du monde, déjà actuel, où le terrorisme est souvent un terrorisme d'État, où c'est des gens dans des bureaux, n'est-ce pas, qui commandent des expéditions ou autres, mais qui dénoncent les terroristes, il faut savoir qu'on a un côté de soi qui, effectivement, est peut-être un côté, alors on se dit antiterroriste, bien entendu, mais effectivement, qui participe de choses violentes. Et je dois avouer qu'une certaine conception guimauve de l'évangile, n'est-ce pas, en faveur d'une non-violence, sans que fasse sursauter le violenti rapionti lud, ce sont les violents qui raviront le ciel, eh bien moi, cette contradiction, je la vis tous les jours et c'est une contradiction. Le seul problème, la seule référence, c'est de se dire que, effectivement, en appuyant ces petits, le problème, c'est encore l'horizon de l'évangile. Je suis avec les plus affamés, avec les pauvres, avec tous ceux qui sont les victimes de ces régimes qui, parce qu'ils sont au pouvoir, ont tous les droits. Eh bien, je dis que le chrétien a le devoir, et d'ailleurs, saint Thomas l'avait déjà prévu, les cas où on peut faire la révolution, les chrétiens non seulement peuvent, mais à l'occasion doivent faire la révolution, et pas seulement comme intellectuels. À l'occasion, les armes à la main.
Alors, donc, vous acceptez, André Mandouze, de répondre à cette parole de Jésus, mais vous acceptez aussi de ne pas être impur.
De ne pas être
impur.
Oh, certainement, je ne suis pas impur. C'est bien lui. C'est bien évident, dans la mesure. Mais alors, ça, c'est dans. Le chrétien n'est pas un homme à part, n'est pas un homme plus pur que les autres. C'est une idée baroque, ou alors. C'est qu'encore une fois, nous tombons dans le chrétien moine séparé des autres. Alors ça, j'admire tout à fait, n'est-ce pas, les moines, et à l'occasion, j'aime bien aller me recueillir, j'aime bien aller les entendre d'une façon ou d'une autre dans leur monastère. Mais je ne suis pas un moine.
S'engager dans l'action, c'est accepter d'avoir un peu les mains sales.
Sans aucun doute.
Sinon, on n'a pas de main du tout, comme on a dit.
Effectivement. C'est pas pour le plaisir d'avoir les mains sales. Si on pouvait ne pas les avoir sales. Que de fois j'ai dit, pour quand on m'a reproché d'aller trop loin, par exemple dans la guerre d'Algérie, j'ai eu cette image, et cette image j'y tiens. Je ne connais pas beaucoup de physique, je me souviens quand on faisait toujours le levier. Mmh. Et quand le poids est très lourd, le bras du levier est très petit, il faut pour le bouger avoir un très long bras de levier. Et avec sa petite force, on peut se soulever. Et très souvent dans ma vie, j'ai été au bout du levier, bien plus loin que je n'aurais voulu. Mais il le fallait. Ou j'aurais été un hypocrite.
On a un peu parlé du passé, on a beaucoup parlé. J'aimerais que pendant ces dernières minutes qui nous restent, vous répondiez à cette question. Quel type de chrétien aimeriez-vous voir surgir pour les années qui vont venir?
Alors là, c'est
Et quel type de chrétien vous aimeriez être?
Moi, c'est fini. Moi, non, je ne suis pas mort encore. Et tout le problème, c'est justement qu'après avoir eu un engagement qui a aidé d'autres à en avoir, je ne sois pas déçu, un homme qui ratiocine, qui trouve qu'on ne fait pas aussi bien qu'on voudrait, etc. Et je dois avouer que là, je suis très aidé par une famille nombreuse, et qui m'aide à ne pas m'endormir, et par des étudiants qui m'aident à ne pas m'endormir. C'est les fils, et c'est les disciples qui forment les pères et ceux qu'on ne devrait pas appeler des maîtres, parce qu'il n'y en a qu'un. Bon. Cela étant, il est bien évident que je vois poindre un certain nombre, y compris dans certains membres de ma famille, de ma descendance, je vois poindre les chrétiens de demain. Ce sont des gens qui, effectivement, ont d'abord même s'ils sont engagés tout à fait dans l'institution, ont de l'institution une vue beaucoup plus relative. Ils iront 3 fois à la messe dans la semaine, s'ils veulent, et 2 dimanches, ils n'iront pas. hein, parce qu'ils savent ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas le légalisme qui leur paraît essentiel. À tous les actes du christianisme, et en particulier aux grands moments, je dirais, de passage, ils ont réfléchi profondément. Un baptême dans une de ces familles, un mariage dans une de ces familles, un enterrement d'une de ces familles, c'est quelque chose qui est réinventé, qui réinvente l'Église, pas seul, mais en général, souvent, ce sont des baptêmes à plusieurs. Enfin, c'est pas par hasard que je les ai vus, n'est-ce pas, dans ma famille, fait selon les rites anciens, n'est-ce pas, de l'immersion. Simplement, ces jeunes ingénieurs savent mettre l'eau à la température qu'il faut pour que l'enfant n'attrape pas une bronchopneumonie. Très bien, ils sont à la fois anciens et modernes. Même chose pour les autres, pour les autres, je dirais, rites. Mais plus encore, c'est la vie courante qui est importante. C'est-à-dire, c'est le témoignage donné dans l'accueil. Ces familles-là me paraissent des familles ouvertes. On va chez eux. On va chez eux, et on va chez eux sachant qui ils sont. Alors effectivement, je pense à tel qui est à la fois très engagé dans le témoignage d'église, qui à l'occasion participe aux homélies, aux organisations de la liturgie, et qui est en même temps un responsable syndical. Alors, au syndicat, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait à l'église, à l'église on ne comprend pas toujours ce qu'il fait au syndicat, mais je dis à la bonne heure, il est dans la droite voie. Le problème, c'est justement, dans sa réflexion de chrétien, d'aller le plus loin possible pour ses frères. Vous savez, moi, ce qui est premier dans l'enseignement de Saint Jean, c'est la première épître, n'est-ce pas, et en particulier le passage qui dénonce avec une violence extraordinaire des géants qui se disent fidèles à Dieu qu'ils n'ont pas vu, mais qui ne voient pas leurs frères qu'ils fréquentent. Ça me paraît une des paroles les plus fortes qui ait jamais été prononcée. Par conséquent, le double amour, n'est-ce pas, l'identité des deux amours, c'est ça encore sur quoi la théologie n'a pas assez réfléchi. L'identité des deux amours.
Deux amours ont fondé deux cités.
Oui. Vous revenez à Augustin. Mais nous aussi, là-dessus, l'identité des deux amours est de Dieu et des hommes. Ce n'est qu'un commandement. Et trop souvent, nous les avons traités alternativement. Et je crois que la fameuse alternance dont parlent certains, ça sera la découverte de l'unité de l'amour de Dieu à l'intérieur de l'amour des hommes. Non pas du tout pour évacuer la transcendance, ni inversement dans la transcendance pour évacuer le cheminement humain, mais pour véritablement expérimenter l'unicité du commandement.
André Mandeau, je vous remercie.